Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis donc déjà ravi d'animer cette rencontre au Club de la Presse de Strasbourg avec Madame Véronique Berthol, adjointe de la maire de Strasbourg en charge des relations transfrontalières, européennes et internationales et des institutions européennes. Alors, Madame Berthol, votre fonction d'adjoint à la maire est d'autant plus importante que Strasbourg est la seule ville française qui accueille des institutions européennes, le Parlement européen, mais aussi le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, et j'en passe. On parle ainsi souvent de Strasbourg comme étant la capitale européenne de la démocratie et des droits humains. Mais au-delà de ce statut institutionnel, Strasbourg développe une coopération transfrontalière importante, notamment avec la ville voisine de Kehl, mais aussi dans le cadre de l'Eurodistrict. Strasbourg développe aussi une coopération internationale dans le cadre de nombreux réseaux européens et internationaux dont on pourra parler ultérieurement. Nous essayerons donc pendant cet échange de vous découvrir, en tout cas de mieux vous connaître, et nous reviendrons avec vous plus précisément sur certains points de la politique internationale, européenne, et transfrontalière de la ville de Strasbourg que vous entendez mener avec l'équipe municipale en place. Alors j'aurais déjà une première question, puisque vous êtes une nouvelle adjointe au maire, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots ?
Mon parcours, je suis originaire de Dijon, je ne suis pas strasbourgeoise, je suis devenue strasbourgeoise de cœur. Donc originaire de Dijon et j'ai fait des études littéraires, voilà, donc j'étais passionnée de langues, allemand, anglais, russe. Dijon c'est capitale des ducs de Bourgogne, donc je pense que mon premier rapport à l'Europe c'est vraiment cette histoire des ducs de Bourgogne, donc ça allait de l'Espagne jusqu'aux Pays-Bas, puis l'Autriche, enfin voilà, j'avais déjà... conscience d'un certain héritage européen. Mes études littéraires m'ont amenée à me questionner sur mon avenir professionnel. J'ai d'abord voulu être journaliste, donc j'ai fait des stages de journalisme, notamment en Allemagne, dans la ville jumelée de Dijon, à Mayence. J'ai fait des stages à la ZDF, et j'ai adoré cette période, mais c'était très frustrant de passer deux jours sur un tournage, enfin capter des images, et puis ramener un sujet à 1 minute 30. Voilà. J'avais envie de garder... Moi, je suis très boulimique, donc j'avais du mal à réduire.
Je crois que les journalistes connaissent ça.
Du coup, je me suis orientée vers... je m'étais dit, je vais faire administration, relations internationales. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble. La spécialisation, c'était administration publique. Et j'ai choisi encore, à l'intérieur de ça, des spécialisations pays d'Europe centrale et orientale et géopolitique. J'ai un mémoire en géopolitique de la mer Caspienne. Et du coup, les questions là d'énergie... Russie, voilà, ça fait un petit peu 20 ans que je regarde de ce côté-là. C'était pas une surprise, c'est ce qui nous arrive. Voilà, au cours de ces études, j'ai fait un an Erasmus à Leipzig, donc en Allemagne de l'Est. Je fais partie de la première génération Erasmus, donc on fête les 35 ans cette année. Moi, j'étais dans les toutes premières moutures. Voilà, je suis revenue terminer mes études à Grenoble. J'ai enchaîné ensuite sur un autre programme, toujours franco-allemand, d'échange entre l'Assemblée nationale et le Bundestag, où j'étais assistante parlementaire d'une députée. On ne pouvait pas choisir la personne, on pouvait juste dire si on voulait un homme ou une femme, et on pouvait choisir la commission. Et donc moi, j'avais demandé une femme, et je voulais travailler sur les questions de droits humains et Europe, et la seule... personne qui croisait tout ça, c'était Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, qui est une ancienne ministre de la Justice. Voilà, donc ma première expérience vraiment professionnelle, ça a été auprès de quelqu'un de très expérimenté en politique.
Vous ne pouviez pas choisir le parti ?
Non, on ne pouvait pas choisir la couleur politique, mais ça m'a beaucoup appris aussi.
Elle est
de FDP, donc plutôt les libéraux. Voilà, et alors suite à cette expérience, je me suis rendu compte que mon parcours sciences politiques était très bien, mais très théorique, très abstrait, et qu'il me manquait encore des outils sur les questions d'Europe. Donc je suis venue à Strasbourg, terminer mes études à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, faire un DESS, c'est l'ancêtre du master, politique publique en Europe. Et alors dans ce master, dans ce DESS, il y avait effectivement des contenus encore très théoriques, mais il y avait beaucoup d'apports pratiques. Et un des apports pratiques, c'était notamment avec le C2IE. On devait monter un projet européen à plusieurs étudiants. Et je me rappelle qu'on a eu la meilleure note. Et pour moi, ça a été vraiment révélateur, cet exercice, parce que autant les études commençaient à s'allonger, j'avais 25 ans et je voyais toujours pas ce que j'allais faire, autant ce temps-là de projet européen, je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux faire des projets européens et si dans une association, ramener l'Europe au plus près des citoyens et des citoyennes. Donc je ne suis plus repartie de Strasbourg parce que suite à ce DESS, j'ai trouvé un emploi dans une association, puis une deuxième. D'abord sur le volontariat européen pour les jeunes, puis sur les programmes de mobilité et d'échange pour les jeunes, d'inclusion, dans un réseau de 34 associations de 24 pays différents, qui s'appelle Réseau Express Jeunes. Voilà, et j'y suis restée 16 ans, jusqu'à décider à force de parler de participation des jeunes, je suis passée de l'autre côté. Quand on m'a proposé de m'inscrire sur la liste, j'ai accepté en pensant être juste en soutien. Donc j'avais demandé à être en position non éligible. Et puis on a gagné beaucoup de places, d'élus. Donc mon nom est remonté dangereusement jusqu'à ce qu'il y ait deux démissions et que du coup je rentre au conseil municipal en décembre dernier.
Alors, on va rentrer sur des sujets un peu, on va dire, plus de l'actualité. C'est notamment donc la guerre qui est donc à nos portes. Je voulais un petit peu voir avec vous quel était un peu le rôle des villes et quelles étaient un peu les actions que mène la ville de Strasbourg pour venir en aide aux Ukrainiens.
En tout cas, pour Strasbourg, ça a été très très clair dès le 24 février, quand on a eu l'annonce de l'invasion. C'était d'abord de soutenir la communauté qui était ici, chez nous. Donc on a aidé à la manifestation du 24 février, puis du 26 février. Très vite, la communauté ukrainienne, qui était déjà bien présente à Strasbourg, très vite, ils nous ont alerté que leurs familles, leurs amis allaient arriver. Et on s'est dit qu'il fallait enclencher sur une politique d'accueil. Parallèlement à ça, comme on a un représentant permanent de la ville de Strasbourg auprès des institutions européennes, donc quelqu'un qui travaille à la direction des relations internationales de la ville, mais qui est détaché à Bruxelles, si on peut dire, il nous a alerté très vite aussi sur cette directive de protection temporaire, puisque les négociations étaient en cours, et on l'a su, enfin c'est pas pour se vanter, hein, mais on l'a su avant la préfecture. Donc on est allé voir la préfecture en leur disant « Cette directive temporaire, elle va arriver. Elle existait déjà, mais elle n'avait jamais été activée. Elle va arriver, ça va déclencher ça, ça, ça et ça en termes d'ouverture de droits. Il faut qu'on soit prêt parce que les personnes déplacées vont arriver. Elles vont rester, enfin, elles vont pouvoir rester. Elles ne vont pas passer par les procédures de droit commun, c'est-à-dire arriver à la préfecture. Donc, il faut qu'on soit prêt. » Donc, on leur a proposé, comme le centre de la Bourse qui servait de centre de vaccination, la fréquentation diminuait fin février, début mars, il y avait de moins en moins de rendez-vous. Ce centre, il était parfaitement identifié par la population strasbourgeoise, il était très central, facilement accessible sans moyen de transport. Donc on s'est dit, on va utiliser le centre pour faire un centre de pré-accueil, où on rassemblera tous les services, la préfecture pour ce qui est de l'enregistrement des personnes, une association qui pourra proposer des solutions de logement et d'hébergement collectif, puisque c'était la solution privilégiée à l'époque, la ville de Strasbourg pour expliquer voilà dans quel environnement les personnes arrivaient, et puis un service d'aide médicale et psychologique avec la Croix-Rouge et les hôpitaux universitaires. Et ce centre de pré-accueil, encore une fois, on a été précurseur parce qu'il a été multiplié, copié ensuite à Paris, à Bruxelles. Et c'est la communauté ukrainienne qui nous a aidés à l'améliorer, avec des services d'interprétariat, de traduction, d'affiches en ukrainien, puisqu'au début, maladroitement, on n'avait que des interprètes russophones, et tout était encore écrit en russe. Donc cette communauté ukrainienne nous a aidés à l'améliorer, améliorer l'accueil, et puis ils en ont parlé dans d'autres villes, et ça s'est multiplié comme ça. Donc on a fait d'abord l'accueil, on a en parallèle fait toute l'aide d'urgence, donc organiser les convois d'aide humanitaire en Ukraine et dans les pays limitrophes, Pologne, Roumanie. Strasbourg a été la plateforme qui a été choisie au niveau national pour collecter et acheminer tous les dons qui étaient collectés par la protection civile. Voilà, et là on a la troisième phase donc, qui commence. C'est les personnes, effectivement, la guerre dure et les personnes ne se voient pas repartir. Donc on a 3000 personnes qui sont passées par Strasbourg depuis le début de la guerre et environ 900 qui restent en fait sur Strasbourg. Pour la plupart, ils continuent vers d'autres villes et d'autres pays où là encore il y a des accroches ou des connaissances ou la famille. Mais pour les 900 personnes qui restent, se pose maintenant la question de scolarisation des enfants, apprentissage du français, insertion sur le marché du travail.
L'université de Strasbourg accueille également une centaine d'étudiants, je crois.
Oui, l'université accueille des étudiants ukrainiens et l'université a une autre problématique, c'est les étudiants russes qui ne peuvent plus rentrer chez eux, qui n'ont plus accès à un compte bancaire, puisque la Russie a été exclue du système SWIFT. Voilà, donc du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans solution.
Oui, c'est ça, il y a les deux côtés à voir aussi ici. Donc concrètement, il y a à peu près 70 000 Ukrainiens qui sont arrivés en France. Et
apparemment, on est plutôt à 80 000, d'après les derniers chiffres.
Et donc 900 à 1000 à Strasbourg, c'est plutôt donc des familles. Vous avez à peu près une idée de d'où ils viennent, de leur catégorie. Alors c'est plutôt des hommes avec des femmes avec des enfants.
Plutôt des femmes avec des enfants qui viennent d'un peu partout, mais surtout des régions sinistrées. Il faut savoir que dans la mesure du possible, les Ukrainiens et Ukrainiennes préfèrent rester chez eux et protéger les maisons, protéger leurs appartements. Donc les personnes qui sont là, c'est que vraiment le logement est détruit ou alors qu'ils craignaient pour leur propre sécurité et santé. C'est des personnes, donc des femmes et des enfants. Et la spécificité, c'est qu'on a très vite remarqué, là encore, le centre de pré-accueil de la Bourse était facilement identifiable, on en a beaucoup entendu parler, ça a été très médiatisé. Et au bout de deux semaines, à peu près, on a commencé à voir des gens un peu louches tourner autour du centre et d'autres centres d'accueil collectifs. Des gens un peu louches, des hommes, qui proposaient soit un hébergement citoyen, soit du travail, avec un travail plus que douteux. Donc on a tout de suite mis en place, pareil, des rondes, police municipale, police nationale, et on a été alertés aussi de tout ce trafic d'êtres humains, trafic de femmes, trafic d'enfants, qui se mettait en place.
Pour rester sur l'Ukraine, il y a aussi un travail diplomatique qui est réalisé par la ville. Vous avez reçu, je crois, une délégation du conseil municipal de la ville de Kiev.
On a la présence du représentant permanent de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe. Et on a accueilli, avant d'accueillir la délégation de Kiev, on a accueilli des délégations de députés ukrainiennes qui siégeaient au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire. Pareil, qui sont venus visiter le centre d'accueil et qui nous ont aussi fait des suggestions d'amélioration. Et la semaine dernière, c'était la première fois qu'on avait des hommes. D'habitude, jusqu'à présent, la diplomatie s'est passée avec des femmes, puisque les hommes sont sur le front. Et c'était des hommes donc du conseil municipal de Kiev. Le maire n'est pas venu, mais il a envoyé des conseillers. Et pour eux, c'était très dur. En fait, c'était la première fois qu'ils remettaient une chemise blanche, un costard-cravate. C'était la première fois qu'ils passaient deux jours sans entendre d'alerte aérienne. Ils étaient vraiment en situation déjà de post-traumatique. Enfin, on voyait, quand on les a emmenés visiter le centre d'accueil, pareil, à la bourse. Un des hommes, il a éclaté en sanglots en disant que lui, en tant que combattant, il voyait pas tout ce qui se passait derrière, ce que ça implique en fait, les déplacements de personnes et le soin que la ville, une ville comme Strasbourg, peut apporter à ces personnes-là. Il était très 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 ému. Et moi, je m'attendais pas à faire de la diplomatie de cette façon-là, en fait, à réconforter des personnes.
Alors voilà de quoi rentrer pleinement dans votre nouvelle fonction d'adjointe en charge des relations internationales. Alors, vous remplacez Julia Dumay depuis seulement quelques mois. Vous êtes plutôt, comme on l'a vu, une actrice de terrain. Comment, à titre personnel, vous voyez votre fonction au sein de la municipalité et qu'est-ce que cela fait de représenter Strasbourg auprès des institutions européennes, des ambassades, des délégations, comme on a vu celle de Kiev, ou plus largement auprès du monde, voire du monde entier.
Ah, alors, j'essaye de garder les pieds sur terre. Comme je disais tout à l'heure, de par ma fonction professionnelle précédente, j'étais déjà un pied dans le Conseil de l'Europe. Là, je siège au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Je représente la ville de Strasbourg aussi dans cet hémicycle. Donc, je suis passée d'une salle à une autre. Après, il y a une très grande fierté pour moi de représenter une ville comme Strasbourg. Il y a un certain prestige. Et c'est pour ça que je dis, j'essaie de garder la tête froide parce que c'est un environnement que je découvre, notamment le corps diplomatique. Ça, c'est pas du tout, j'ai pas beaucoup pratiqué avant. Donc voilà, j'essaye de rester celle que je suis et rester proche du terrain. Je sais que Strasbourg, on a beaucoup pratiqué cette diplomatie de niche et une Europe très protocolaire. Moi, il m'importe beaucoup plus, en fait, de la rapprocher, encore une fois, du quotidien des citoyens et des citoyennes, des habitants et des habitantes, des entreprises aussi, qui font l'Europe. Et c'est ça que j'essaye d'apporter ici ou ailleurs quand je suis en représentation.
En revenant là-dessus, ça, on va faire le lien assez vite. À votre arrivée, la municipalité a souhaité fédérer des associations européennes au sein de ce qu'on appelle l'Agora, Strasbourg Capitale Européenne. Concrètement, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi le rôle de cette agora et finalement, qu'est-ce que vous en tirez en tant que dans son fonctionnement depuis maintenant bientôt 2 années?
Alors c'est une instance de consultation de toutes les personnes et structures qui ont envie de parler Europe ou faire l'Europe à Strasbourg. Donc c'est très ouvert. On est à peu près maintenant à 300 associations, 300 structures ou institutions. Voilà, on se rencontre une fois tous les 3 mois en session plénière. Et entre ces sessions, il y a des groupes de travail très thématiques et pratiques. Un groupe de travail qui a travaillé sur la fête de l'Europe, dont on doit donc une grosse partie de la programmation du mois de mai à ce groupe de travail. Un groupe de travail sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc ce groupe de travail est peut-être amené à être repensé puisque cette conférence s'achève le lundi. Un autre groupe de travail sur le transfrontalier et un groupe de travail sur l'éducation à la citoyenneté européenne.
Il en est sorti aussi un appel, ce qui peut aussi venir par rapport à cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est cet appel de Strasbourg. Là aussi, quel était l'objectif de cet appel de Strasbourg et est-ce que les Strasbourgeois se sont emparés de cet outil?
Alors l'appel de Strasbourg, c'était voulu comme la contribution concrète de la ville à cet énorme travail de consultation des citoyens au niveau de l'Union européenne. Bien sûr, on a accueilli des panels de citoyens au Parlement européen, mais on voulait qu'il y ait une contribution spécifique au-delà du fait d'être la ville hôte de certaines discussions. On voulait qu'il y ait vraiment quelque chose qui reste. Donc on a proposé à l'Agora et aux différents groupes de travail de nommer 2 représentants par groupe de travail et de travailler sur des propositions, sur un texte. Les élus n'en ont pas fait partie, ça c'était vraiment une volonté. On a juste expliqué la méthode et ensuite on s'est retiré complètement. On a laissé la main libre aux associations. Le texte qui en est ressorti, Il a été proposé, enfin il a été adopté en session plénière pour être sûr que vraiment ça représentait bien les orientations de l'Agora. Il n'a pas été voté en conseil municipal. En conseil municipal, on a eu une délibération, une motion sur l'Europe. Mais ce texte, il reste vraiment un texte citoyen. Et il a été téléchargé sur la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe et on l'a envoyé à peu près... Déjà, le trio d'institutions qui travaillent sur cette conférence, on l'a envoyé à énormément de chefs d'État, des États membres, et on l'a envoyé aussi à d'autres villes pour qu'elles s'emparent de l'outil et qu'elles fassent la même chose.
Concernant le Parlement européen, on sait que la question du siège refait régulièrement surface. Que pensez-vous de cette question? Et est-ce que, au niveau de la municipalité, il y a une réflexion qui est faite pour renforcer le siège du Parlement européen à Strasbourg.
Tout le travail de la ville, c'est plutôt de faciliter en fait cette présence, faciliter les déplacements des parlementaires. Donc on est en train d'essayer de travailler à un accès beaucoup plus facile à Strasbourg en termes de mobilité, en termes de connexion d'aéroport, puisqu'on sait que l'aéroport de Strasbourg seul ne suffit pas. La mobilité pour atteindre Strasbourg, pour se déplacer dans Strasbourg, ça c'est un gros travail. La facilité, enfin l'offre des hôtels aussi, on travaille beaucoup à ce que ce soit confortable et accessible. Ensuite, on essaye de rapprocher ce Parlement et de l'ouvrir aussi sur les habitants et les habitantes. Donc ça, c'est un gros travail de notre part, ville, de demander à ce qu'il soit plus ouvert et plus accessible. Voilà. Après, le président Sassoli l'a souligné. Pour lui, c'était sa maison. Ça a été redit par la nouvelle présidente.
Je pourrais faire le lien parce que, et moi, je me souviens d'un titre de France Info qui titrait un de ses reportages, Parlement européen, le Covid-19 va-t-il tuer Strasbourg? Ou on entendait encore, le Covid a-t-il eu la peau de Strasbourg? Vous, avec le recul, aujourd'hui, déjà, quel regard vous portez sur cette période? Et est-ce que le Parlement ressort de cette période de Covid encore plus affaibli ou affaibli?
Non, moi, j'ai pas l'impression. On a une nouvelle présidente qui est très, très volontaire, qui porte aussi ce projet de siège ici à Strasbourg. Vice-présidente également, elle a fait un discours pour l'inauguration de la Fête de l'Europe, pareil, en disant « Strasbourg, c'est notre maison ». Moi, j'ai pas du tout cette lecture-là. Je pense, par contre, que le Covid a, mais ça, c'est plus généralement, c'était un danger pour la démocratie. Pas juste le siège de Strasbourg, mais un danger pour la démocratie parlementaire. Le fait que les gens ne se rencontrent plus, ne discutent plus entre eux, physiquement, c'est un danger en général. C'est pas juste le Parlement qui peut être en danger. Nous, rien que l'équipe municipale, on le voit bien. On a du mal à revenir discuter avec les habitants. En 2 ans, les habitudes ont été balayées. C'est vrai que c'est plus facile de faire une petite remarque sur Facebook que de vraiment se déplacer à une réunion publique et dire ce dont on a besoin, ce dont on ne veut plus, ou faire des propositions.
Alors, revenons sur du concret. On parle de ce fameux immeuble, bâtiment qui a été construit donc à côté du Parlement, du bâtiment Louise Weiss. Hein, c'est le bâtiment Osmose. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'en est-il de ce rachat de ce bâtiment par le Parlement européen? Et aussi, si vous pouviez nous dire un peu quel est le projet finalement, parce que a priori ils vont se séparer d'un autre bâtiment qui viendrait à l'hôtel. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner?
Ça, malheureusement, je pourrais pas en parler puisque les négociations sont toujours en cours. Tant pis.
Je coupe.
Tant pis. Non, je suis désolée.
J'aimerais maintenant cette fois-ci, on va peut-être pour ma part terminer sur c'est un peu la question des jumelages aussi. Vous travaillez sur les jumelages. Il y en a 5, je me trompe pas.
Et non, c'est ça.
Il y en a 5. Il y a donc Stuttgart, Dresde, Leicester et
Boston.
Et il y a une
Ramat Gan.
Voilà.
Exact.
Donc il y a ces 5 villes qui sont donc partenaires et jumelées avec Strasbourg. Il y a un anniversaire, c'est celui de Stuttgart cette année, 60 ans.
60 ans.
Et là aussi, comment vous reprenez ces partenariats? Est-ce qu'il y en a certains qui étaient moins importants que vous avez envie de de reprendre plus fortement. Quelle est votre politique de jumelage?
Alors sur les jumelages, on a des jumelages qui fonctionnent, c'est vrai, plus ou moins bien. Les jumelages très très actifs, c'est Stuttgart et Dresde. Ça a toujours pris. Donc Stuttgart 60 ans, Dresde 30 ans. Ça a bien pris. Il y a des implications à tous les niveaux. C'est les villes entre elles qui travaillent, parfois les universités entre elles, ou les citoyens, les habitants, les associations de quartier. Voilà, Stuttgart, il y a un quartier de la Roberto qui travaille avec un autre quartier de Stuttgart. C'est assez rigolo. Les viticulteurs de, enfin la cave historique. À Strasbourg, a rencontré son homologue à Stuttgart et ils sont partis sur un millésime Strasbourg-Stuttgart, des vignes, des cèpes et des surgreffes. Donc on va avoir une vendange franco-allemande. Enfin, c'est très créatif de ce côté-là. Dresde, c'est plus sur l'innovation scientifique. Après, Leicester, c'est au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec le Brexit, les liens se sont distendus des deux côtés. Ça va être une de mes prochaines tâches de voir en fait comment on peut réactiver ce jumelage. Boston, ça fonctionne très bien et alors avec au niveau économique en fait, coopération économique. Et l'élection de la nouvelle maire ne peut que, je pense, être de bon augure pour nous, parce que c'est une femme issue de l'immigration, qui porte aussi des questions de justice sociale et de protection de la nature. Donc je pense que ça peut matcher avec Jeanne Barseguian. Voilà. Quand c'est porté politiquement, c'est beaucoup plus facile. Et Ramat Gan, ben on y va... Donc Stuttgart, on accueille une délégation la semaine prochaine, et Ramat Gan, on y va en délégation politique dans 2 semaines. Ramat Gan, c'est Israël, pardon, c'est juste à côté de Tel Aviv.
Je crois que c'est une ville assez, assez riche.
Assez riche et pareil, assez pionnière en tout ce qui est transformation écologique, innovation. Là, on y va plus pour s'inspirer de bonnes pratiques et ramener ici.
Et vous étiez ici en Tunisie, mais récemment. Là aussi, il y a une volonté de coopérer, de créer du jumelage, ou simplement d'échanger sur des bonnes pratiques, sur...
Alors, à côté, donc on a 5 jumelages, donc vraiment des accords de ville à ville, hein, c'est des conventions de jumelage, c'est presque comme un contrat de mariage, en fait. Et ensuite, on a des partenariats de coopération décentralisés, où là, on fonctionne sur un projet, donc ça peut être un projet de 1 an, 2 ans, plusieurs années, mais un projet très spécifique et sur une thématique qui va être commune aux deux villes, en fait. Donc la Tunisie, c'est un projet d'aménagement urbain et de promotion des mobilités douces, notamment le vélo. Donc là, Strasbourg, c'est la ville de Kairouan qui nous a demandé, en gros... qui voulait s'inspirer du modèle strasbourgeois. Donc il y a eu des coopérations techniques avec les services de planification urbaine, avec des associations vélo, d'auto-réparation. Donc il y a eu des premières rencontres techniques en ligne, puis en réel. Et on a fait partie d'une délégation politique en avril pour aller voir sur place l'avancement des travaux. La situation en Tunisie est quand même assez compliquée. Donc le projet a pris beaucoup de retard en raison du Covid et aussi en raison de problèmes internes à la Tunisie. Mais on a choisi, par exemple, dans toutes les propositions de coopération décentralisée que la ville de Strasbourg peut recevoir, on choisit de répondre, parce que sinon on s'éparpillerait trop. On a raccroché ça aux 3 piliers en fait du projet de la ville. Donc le pilier de transformation écologique, ou alors le pilier transformation sociale, ou alors le pilier transformation démocratique. Et le soutien au renforcement des capacités d'une commune en Tunisie, pour nous, ça passe... Bien sûr, le vélo et la planification urbaine, ça rentre dans transformation écologique, mais pour nous, c'était plus un renforcement du processus de démocratisation en Tunisie et aider une commune à s'outiller pour faire plus de participation citoyenne, avoir plus d'autonomie locale par rapport à un État qui reste encore très très centralisateur.
Merci beaucoup pour cet échange.